La Parole des Contes, une émission proposée par Janine Rabat, mise en musique Olivier Rabat.
Le petit lièvre et la hyène. Il y a bien longtemps, mais peut-être pas si longtemps, peut-être encore aujourd'hui. Il y a bien longtemps, quand les animaux savaient parler, quand les arbres savaient les écouter, peut-être encore aujourd'hui, il y avait un petit coin de brousse, et dans ce petit coin de brousse, un arbre, et dans un creux de cet arbre, un conte. Je l'ai pris pour vous. Le petit lièvre de la brousse rentrait chez lui. Il faisait très chaud, très très chaud ce jour-là. Le petit lièvre de la brousse s'arrêta sous un baobab. Lorsqu'il fut reposé, il dit « Merci, baobab, pour ton ombre fraîche. » Et comme il était taquin, il ajouta « Ton ombre est sans doute meilleure que tes fruits qui pendent. » Le baobab fut un peu vexé par cette réflexion. Mais, comme il était très généreux, il offrit ses fruits au petit lièvre de la brousse qui s'en délecta et dit « Merci, baobab, pour tes fruits délicieux. » Et comme il était taquin, il ajouta « Tes fruits sont sans doute meilleurs que ton cœur enfermé dans ce tronc. » Le baobab fut un peu vexé par cette réflexion. Mais, comme il était généreux, il ouvrit son cœur au petit lièvre de la brousse qui y découvrit un trésor de cadeaux. Le petit lièvre prit une paire de sandales pour lui et pour Madame Lièvre, un beau pagne batiqué, des bracelets en paille tressée, des boucles d'oreilles en paille d'or. Puis il dit au revoir au baobab. Merci, baobab, pour ton ombre fraîche. Merci, baobab, pour tes fruits délicieux. Merci, baobab, pour ton cœur généreux. Et il partit en courant et arriva chez lui. Le petit lièvre de la brousse raconta à Madame Lièvre la sieste sous le baobab, tout ce que le baobab lui avait offert, et il lui offrit les cadeaux qu'il lui rapportait. Madame Lièvre fut très, très, très contente. Elle se para du beau pagne batiqué, mit les bracelets en paille tressée et les boucles d'oreilles en paille d'or. Et ainsi parée, elle se trouva belle. Et que fait une femme qui se trouve belle? Elle va se promener, se pavaner. Madame Lièvre partit donc se promener, se pavaner dans la brousse. Sur un chemin, elle rencontra la hyène, toujours envieuse et avide. Elle lui raconta comment le petit lièvre de la brousse avait obtenu ses cadeaux. La hyène, fesse basse, queue entre les jambes, se précipita sous le baobab. Le baobab lui offrit son ombre fraîche, lui offrit ses fruits délicieux, lui offrit son cœur généreux. La hyène prit tous les cadeaux qu'elle découvrit tous. Lorsqu'elle n'en vit plus, elle gratta, creusa, griffa. Gratta, creusa, griffa. Et le cœur du baobab saigna, saigna, saigna. On raconte que, depuis, le cœur du baobab reste enfermé dans son énorme tronc et qu'il ne s'en trouve qu'exceptionnellement. On raconte aussi que, comme le cœur du baobab, le cœur de l'homme ne s'ouvre, peut-être même ne s'en trouve que rarement. De quelle hyène? a-t-il donc peur ? J'ai remis le conte dans le creux de l'arbre. C'était un conte africain. Meng et Sheng. Il était une fois, quelque part où le soleil se couche, sûrement au-delà de cette fois sept pays. Il y a déjà bien longtemps, dans un petit village de la Chine ancienne, un jeune homme, Sheng, travaillait courageusement sa petite parcelle de terre. Chaque soir, il menait son cheval boire à la rivière. Un soir, il vit, sur la rive d'en face, une jeune fille qu'il avait. Quand elle leva les yeux, il aperçut deux papillons de velours. Quand elle se redressa, il vit des magnifiques cheveux noirs, très longs, entourant une taille fine, et deux minuscules pieds. Sheng en resta émerveillé. Il était devenu, en un instant, amoureux des papillons de velours. À la nuit tombée, Sheng vint marcher sur la rive d'en face. Il vit par terre une épingle, l'épingle de la belle, qui venait d'avoir 15 ans. Sheng la ramassa et rentra chez lui plein d'espoir. Peut-être l'avait-elle laissé tomber pour lui. Le lendemain matin, Sheng courut chez sa tante, organisatrice de tous les mariages dans le village. Il lui fit la description de la jeune fille. La tante reconnut la belle Meng, sérieuse, douce, courageuse. Elle promit d'aller parler aux parents de Meng. Après avoir sermonné Sheng, quelle est cette folie de choisir tout seul sa femme et de l'avoir vue avant de l'épouser? Surtout, ne le dis à personne. Plein d'espoir, Sheng aurait mangé le monde de bonheur. Le jour suivant, la tante apporta une oie à la famille de la jeune fille, parla longuement de Sheng aux parents de Meng, et le mariage fut décidé. Il fallut avant étudier les dates de naissance de Meng et de Sheng pour fixer la date des noces. Puis, le jour faste fut choisi. Le jour des noces, Sheng alla louer un palanquin pour conduire sa femme chez lui. C'était un palanquin doré, entouré de musiciens qui frappaient les cymbales, les xines, les bangs, les chougous, les païbans, le mouyou sculpté de poissons que Sheng ne cessa de regarder. Meng attendait, dans sa robe de noces rouges, le visage caché derrière un voile couleur de joie. Elle attendait, le cœur tremblant. Est-ce que ce sera bien le jeune homme que j'ai vu à la rivière? Celui pour lequel j'ai laissé tomber mon épingle? Après la cérémonie devant Bouddha et le repas traditionnel, Sheng, à la lumière de la lanterne qui guidait le cortège, put enfin emmener sa femme chez lui, le cœur tremblant. Est-ce que ce sera bien la jeune fille que j'ai vue à la rivière, celle dont j'ai ramassé l'épingle? Et enfin, seul avec elle dans la chambre nuptiale, Sheng souleva le voile de la mariée. Deux papillons de velours lui souriaient. Cheng rendit à Meng son épingle qu'il avait gardée. Et leur vie à tous les deux ne fut que douceur et miel. À la cité interdite, il n'y avait ni douceur ni miel. L'empereur Qin Shi Huangdi faisait régner la terreur. Pour protéger la Chine de sauvages invasions, il décida de l'entourer d'une grande muraille. Et pour des milliers de kilomètres, des milliers d'hommes furent nécessaires. L'idée fut arrêtée, imprimée, affichée, proclamée. La levée des hommes se fit dans tout le pays. Cheng dut partir. Il dit à Meng, « Je t'enverrai de mes nouvelles, je reviendrai. » Mais passèrent le printemps, l'été, les hirondelles et l'automne. Meng n'avait pas de nouvelles et Cheng ne revenait pas. Meng s'enferma pendant 10 jours. Quand elle sortit, elle était prête, en manteau et chaussures de marche, sac sur le dos. « Je vais à la grande muraille, porter des vêtements chauds à Cheng, » dit-elle au voisin. Au début, elle marcha sans peine et fut accueillie facilement. Mais lorsqu'elle ne fut plus dans sa propre province, on lui refusa le vivre et le coucher. Il faisait froid. Elle sentait ses forces la quitter. Elle allait sans s'arrêter. Les jours étaient blancs et les nuits noires. Le temps courait sans jamais s'arrêter. Elle aussi courait. Elle courait tant que c'était la terre elle-même qui roulait sous ses pieds. Un matin, Meng vit devant elle un long lacet, serpentant d'un bout à l'autre de l'horizon. Sur ce lacet, des milliers de fourmis marchaient, portaient, déposaient, cognaient, fendaient. Elle courut jusqu'au lacet de pierre, de roc et d'homme. Elle allait de l'un à l'autre, demandant « Vous n'avez pas vu Cheng ? Vous n'avez pas vu Cheng ?» Personne n'avait le temps de l'écouter, de lui répondre. À un moment, Meng aperçut un groupe d'hommes en cercle. Elle courut, rompit le cercle et vit le corps de Cheng allongé sur le sol gelé. Elle s'agenouilla, prit les mains de Cheng, les posa sur ses joues et chanta la chanson de la mort. Cette petite chanson sortait de sa bouche, prenait le chemin des oreilles de chacun, et celui qui la recevait tombait à genoux et s'arrêtait de travailler. La petite chanson arrêtait tous les travaux de la grande muraille par la force de sa tristesse infinie. Les gardes hurlaient, frappaient, mais rien n'y faisait. La nouvelle arriva à l'empereur. Il hurla, « Une femme, à elle seule, a le pouvoir d'arrêter mes ordres ? Son chant met à genoux des milliers d'hommes ? Qu'on me l'amène pour que je l'écrase de mes propres mains ?» On amena Cheng à l'empereur. Il vit 2 papillons de velours et dit simplement « Voulez-vous m'épouser ?» La foule des dignitaires était frappée de stupeur. Meng répondit « Oui, mais à une condition. Laquelle ?» demanda l'empereur. Les dignitaires étaient de plus en plus stupéfaits. Meng répondit « Que vous fassiez à mon mari, mort pour la grande muraille, un enterrement digne d'un prince. » L'empereur dit « Je te l'accorde. » Les dignitaires étaient ahuris, désorientés, médusés. Cheng fut posé sur un lit de bois, recouvert de tissus précieux, puis porté au campement impérial, pendant qu'un dignitaire montait sur un sommet rappeler son âme. Cheng fut baigné, parfumé, habillé. Sa bouche reçut un morceau de jade pour assurer son immortalité. Le corps de Cheng fut exposé. Meng regardait la pierre entre les lèvres de Cheng. L'empereur regardait Meng. Meng avait revêtu la robe des grandes douleurs. Ses yeux étaient baissés, ses cheveux relevés par l'épingle. L'empereur dut pour la première fois se mettre à l'école de la patience, car le rite était long. Le corps de Cheng fut déposé sur un magnifique char tiré par des dignitaires impériaux. Meng le suivit, entouré des pleureuses. Le cortège se dirigea vers le tombeau, aménagé dans un roc. Dans le tombeau, on avait disposé des objets dignes d'une vie de prince. Un palais d'argile, des statuettes de serviteurs, du mobilier, des armes en nacre, des bijoux de jade et d'or, des récipients en bronze ciselé, rempli de nourriture pour son voyage, et même des petits ponts pour franchir les endroits périlleux. Le cortège suivait une falaise à pic sur une mer intérieure. Une complainte en montait, celle des épouses dont les maris étaient morts à la grande muraille. Personne ne vit un dragon dans le ciel. L'empereur s'impatientait. On installa le tombeau dans le roc et le cortège prit le chemin du retour. Dans le ciel, tout à coup, Meng vit le dragon. Elle le supplia. « Oh, dragon protecteur, puissance des eaux et du ciel, aide-moi à ne pas épouser l'empereur. » Je veux rester la femme de Cheng par-delà la mort. » L'empereur s'impatientait. Il remonta le cortège. Il allait parler à Meng de noces impériales. Mais Meng n'était plus là. L'empereur hurla. Un dignitaire lui dit : « Elle vient de sauter, là, dans la mer. » L'empereur s'accroupit en haut de la falaise. L'empereur ne comprenait pas que l'on puisse préférer la fidélité à la puissance, la mort à la gloire. L'empereur ne voyait pas le dragon s'éloigner en riant. L'empereur ne savait pas et il ne sut jamais que Meng s'était changée en splendide poisson de jade, qu'elle était allée dans la grotte sous-marine où Cheng, poisson de jade lui aussi, l'attendait. Dès que Meng et Cheng se touchèrent, ils reprirent leur forme humaine et leurs retrouvailles dans la pénombre sous-marine ne furent que douceur et miel. On dit que l'empereur ne parla plus jamais et que les travaux de la grande muraille furent interrompus. On dit que Cheng et Meng restèrent discrets pour protéger leur bonheur. Les dieux leur donnèrent l'immortalité, mais Cheng et Meng, après avoir engendré de nombreux enfants, choisirent de redevenir poisson de jade. J'ai parlé, maintenant je dois me taire. Que la beauté du conte reste dans vos cœurs. C'était un conte de Chine, d'après un récit de Meng Shangnu, adapté par Elisabeth Lemire et Valérie de la Rochefoucauld.